L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours. Bonjour et bienvenue dans l'actu sur un plateau, l'émission quinzomadaire d'actualité locale en direct. Et comment parler d'actualité sans évoquer la crise ? Alors nous recevons aujourd'hui deux invités particulièrement touchés par les contraintes sanitaires. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisque les invités que vous allez entendre ne seront pas en direct puisqu'ils n'étaient pas disponibles à midi. Donc en seconde partie d'émission, ce sera le témoignage de Philippe Flao de la compagnie de théâtre Création Éphémère. Et tout de suite, voici notre premier invité.
L'invité de l'actu social.
Et on s'écoute tout de suite le témoignage de Yannick Chopin, qui est lui dans le domaine de la restauration et référent du Sud Aveyron à Lumy. Voici tout de suite la retransmission de son interview par téléphone. Bonjour Yannick Chopin.
Bonjour.
Vous êtes co-gérant du Canoë Café situé à Cressel et vous êtes aussi le référent du Sud Aveyron et responsable des saisonniers à Lumy, donc qui est l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, des services de restauration, etc. Alors avec le premier confinement, la réouverture tardive de la saison, le couvre-feu et puis maintenant le second confinement, le secteur de la restauration et des commerces de proximité se voit complètement bouleversé. Quel bilan vous pourriez faire actuellement ?
Bah, depuis le début, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse ? C'est-à-dire que moi je vais vous parler plus précisément de mon secteur d'activité puisque nous avons été fermés pendant une grosse période de 3 mois. C'est du jour au lendemain, de l'après-midi pour le soir, sans trop savoir le pourquoi du comment et sans trop savoir de quoi demain sera fait. Donc, on a fermé grosso modo pour 3 mois. On a rouvert cet été avec plus ou moins de bonheur pour certains, puisque il faut être honnête en fait sur le département, les gens ont travaillé après cet été une fois que nous avons été relâchés.
Oui, parce que vous proposez également des activités de pleine nature, c'est ça ?
Alors, en fait, pour être précis en ce qui concerne le Canoë Café, en fait, nous, on est une structure avec mon camarade Guillaume et moi-même d'événementiel qui venons créer un événement durable sur l'été sur le site des bateliers du Viaduc, qui est une structure dépendante de la nôtre. C'est-à-dire, eux, ils ont l'activité loisirs et bateliers du Viaduc, c'est-à-dire, entre autres, avec les canoës et tout ce qui va avec, et les balades Viaduc. Et nous, on est, en fait, gérant pour l'été de l'espace restauration qu'il y a sur cette base-là. Voilà. Pour être vraiment précis.
Et alors, de votre côté, comme vous disiez, la saison n'a pas été si mauvaise, la saison d'été.
Non, il faut être réaliste. C'est vrai qu'après, ça a patiné un petit peu parce que, moi, je vous parle de notre cas précis. Nous, on devait ouvrir au mi-mai à peu près. Et nous sommes une structure qui travaille en plein air. Donc, s'il fait beau, on travaille. Si c'est pas beau, on travaille pas, puisqu'on a aucun moyen de pouvoir se couvrir. Donc, on avait pris l'initiative avant le confinement de démarrer doucement au 15 mai, et puis en fonction du temps de travailler comme on aurait pu travailler. Simplement, le temps, enfin les éléments déjà d'une part par rapport à cette histoire du Covid nous a contraints à reculer l'échéance, et quand on nous a lâché ensuite, les éléments sont rentrés un petit peu de concert contre nous également, puisqu'on a subi des inondations
avec la crue du Tarn,
de l'ouverture, et nous a retardé un petit peu. Ensuite, donc on a ouvert fin juin jusqu'à début septembre, qui est la jauge sur laquelle on travaille sur les terres avec ce gros événement qui est le Canoë Café. Et il faut dire honnêtement que l'été nous a aidés, la saison nous a aidés, puisque le monde a été là. Le temps nous a permis de bien travailler également, Mais après, sur deux mois, ça vous fait pas travailler une année complète, quoi. Mais après, d'un avis général également, hein, pour avoir des collègues aux quatre coins du département, l'été a été quand même pas trop mauvais pour tout le monde, hein, y compris pour d'autres commerces qui ne sont pas de la restauration.
Mmh. Oui, notamment parce que justement, les gens ont fait ce choix de partir dans leur propre région et finalement, il y a eu du monde, en tout cas en Aveyron.
Oui, il y a eu, je vous confirme, effectivement, il y a eu du monde en Aveyron. Nous, si ce n'est qu'on a dû voir, d'habitude, on voyait, puisque c'est la deuxième année qu'on était là, on voyait passer quelques étrangers, Hollandais, Belges, voilà. Mais cette année, on a dû voir un couple de Belges. Quand je dis un, c'est pas deux. Et après, essentiellement, des gens qui venaient sur un rayon de on va dire, 3 heures autour de Millau, quoi. Beaucoup Montpellier, Clermont, Toulouse, beaucoup de gens de l'Hérault également. Donc, mais oui, effectivement, ça a été une proximité de clients, de résidents français qui se sont déplacés dans notre région, évidemment.
Alors, finalement, ce bilan d'été qui aurait pu être catastrophique ne l'a pas été. Et alors, quelles ont été les réactions et l'atmosphère ambiante, justement, du point de vue des petits établissements et des commerces de proximité suite à l'annonce du second confinement, du couvre-feu et ensuite du second confinement?
Alors, ça a été très compliqué parce qu'on pensait, honnêtement, par rapport à la gestion de crise qu'il y avait eu la première fois que nos gouvernants prennent un petit peu en ligne de compte les erreurs qu'ils avaient fait la première fois, et puis on s'aperçoit qu'en fait c'est encore du bricolage concernant notre corporation, quoi. Nous on comprend pas tellement comment ça se fait que nous sommes montrés du doigt systématiquement comme ça, en nous mettant en avant, en disant qu'on est quand même source de propagation, de divulgation de la Covid-19, alors que on a des problématiques qui se trouvent dans les transports, dans les grandes surfaces et autres. Voilà, nous on comprend pas ça, surtout qu'on est une corporation, on a travaillé depuis le début d'arrache-pied avec les ministères pour leur proposer des protocoles de façon à pouvoir essayer d'enrayer et de se mettre un petit peu à l'encontre de cette problématique. Et puis on s'aperçoit une deuxième fois encore, ça manque de concertation, c'est des décisions qui sont prises à la va-vite, c'est des décisions qui ne prennent pas en ligne de compte effectivement notre travail, notre façon aussi de faire. Nous fermer de la veille pour le lendemain, voilà, je veux dire, c'est nous on a quand même des marchandises, des frigos, des organisations qui est en place pour pouvoir travailler, parce qu'on travaille en circuit court. Et du jour au lendemain, il est très difficile de vous faire fermer. Donc c'est très compliqué encore une fois. Je pensais qu'on aurait un peu plus de concertation effectivement avec les pouvoirs publics. Ça n'a pas été le cas. Déjà d'une part, nous mettre dans une première, je prends le cas de l'Aveyron, la première fois, on met une fermeture à 22h. Bon, ça vaut ce que ça vaut. 22h, certains de mes confrères pouvaient faire effectivement penser ou être censément faire un service du soir, mais en mettant les gens avec un coup de pied aux fesses dehors pour 22h. Donc le soir, dans la restauration, on va dire, il y a un petit peu classique, les gens viennent pour un repas plaisir et non pas pour se nourrir. Donc auquel cas, les gens qui viennent pour se nourrir, ils peuvent le faire très bien à partir de 19h et être à 20h30 chez eux. Mais dans la restauration classique, on peut pas faire deux, on travaille beaucoup sur deux, trois services, et un premier service démarre décemment à 21h une fois que les gens commencent à sortir de chez eux. Donc 22h c'était mort, et lorsque trois jours après, on vient nous rajouter ce couvre-feu à 21h, c'était un peu le coup de poignard dans le dos, donc autant nous faire enfermer de suite, ce qui a été fait trois jours après. Mais voilà, ce que je comprends pas encore une fois, ça a été fait sur certaines régions, d'autres se sont rajoutées après. Voilà, il y a une cacophonie générale qui nous permet de dire qu'en fait c'est géré un peu à la petite semaine, et voilà, on comprend pas toutes les décisions qui sont prises et puis tous les arguments qu'on nous avance.
Et alors, quelle a été votre position quand justement à ce deuxième confinement, dans certaines villes de France comme Rodez, la municipalité souhaitait autoriser la réouverture des commerces non essentiels?
Ouf, alors là c'est un vaste problème, parce que je pense que là aussi il y a eu un effet d'annonce effectivement pour quelques municipalités qui ont voulu effectivement mettre en avant leur droit de veto sur ce qui avait été mis au niveau national, mais après juridiquement parlant, c'était très difficile à mettre en place, pour ne pas dire impossible. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'incohérence, elle est encore à ce niveau-là. Je veux dire, on en est à mettre une interdiction au commerce non essentiel. Alors, où est la jauge du non essentiel? En étant fermé à aujourd'hui, il a fallu qu'on se bataille et qu'on fasse remonter quelques informations et qu'il y ait eu quelques couacs qui remontent jusqu'à la tête de l'État pour pouvoir 3-4 jours faire un rétropédalage, interdire dans les grandes surfaces certains rayons. Alors qu'à mon sens, il était plus facile d'ouvrir des petits commerçants. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif du tout. Mais on a moins de chances, effectivement, dans un petit commerce géré par le commerçant en vertu des gestes barrières, de tout ce qui va avec, le gel hydroalcoolique, la distance d'un mètre, le masque, etc., etc. Je pense qu'il est plus facile à gérer pour un petit commerçant, encore, je dis petit, mais pas péjoratif, que de lancer dans des grandes surfaces, même si on réduit à 4 mètres carrés ce qui était au départ la jauge faite, avec des personnes qui, le cas du plein, se foutent royalement, effectivement, des 4 mètres carrés, et se retrouvent agglutinées comme au marché, au bestiaux, à l'ESSAC, quoi. Donc je crois qu'encore là, il y a une incohérence par rapport aux décisions prises. Et voilà, nous on se bataille plus. Moi, je prends pour ma corporation et même pour aller défendre nos camarades des commerces de proximité, pour dire voilà, à un moment donné, c'est où on prend la même décision pour tout le monde. Mais je vois pas pourquoi le commerce de proximité serait plus dangereux qu'une grande surface ou qu'un transport en commun. Moi, là, il va falloir qu'on me l'explique avec des choses bien rationnelles.
Alors tout à l'heure, vous parliez des restaurants, enfin de certains restaurants et commerces qui ont dû complètement fermer. Alors on imagine que c'est une situation très difficile pour certains. Et pourtant, avec le service de livraison, est-ce que c'est une période compliquée? Est-ce que c'est pour tout le monde? Je pense à tous les services de restauration rapide, par exemple. Est-ce que de leur côté, la demande n'est-elle pas plus grande, justement?
C'est-à-dire par rapport à la restauration emportée?
Oui, voilà, la restauration rapide, les pizzas, etc.
Bah, le problème qu'a la restauration rapide, entre guillemets, ou cette service, c'est que maintenant, en étant sous une période de couvre-feu, dont les gens sont obligés de se munir d'une attestation pour sortir de chez eux, au gramme d'âme, un kilomètre, une heure, etc., etc., je pense qu'ils vont faire le choix de profiter de cette heure-là, soit pour aller faire un petit peu d'exercice, une promenade, faire pisser le chien, ou aller vraiment à l'achat de l'essentiel. Je pense pas qu'ils fassent une attestation pour aller chercher à manger midi ou le soir. Par contre, aujourd'hui, effectivement, lorsque je parle du confinement général, hein, lorsqu'il y avait après la période de couvre-feu à 21h, nous on n'a pas eu assez de temps sur le département pour pouvoir analyser la situation, mais les gens qui faisaient de la livraison à domicile, ce n'était pas la panacée non plus, quoi. À aujourd'hui, il faut voir que la restauration dite rapide ou la restauration snack, fooding, ce que vous voulez, aujourd'hui c'est une restauration qui permet de se nourrir. Bien ou mal, c'est pas là le problème. Mais aujourd'hui, la restauration classique du soir telle qu'on la connaît, c'est du repas plaisir. C'est un repas que l'on va partager avec des amis, avec des copains, avec sa famille. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu une explosion de la vente à domicile, de la vente à emporter effectivement, et de la livraison sur les repas une fois le confinement mis en place ou le couvre-feu mis en place.
Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler à présent des solutions qui ont été mises en place? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des plateformes qui se mobilisent pour soutenir les commerces de proximité?
Alors moi, en ce qui nous concerne, je parle de l'UNI, donc notre corporation est défendue nationalement, puisque chaque département a sa représentativité. C'est vrai que nous avons aussi donc à la tête de tous ces départements une UNI nationale qui discute avec les ministères par rapport à ce que fait remonter la base et les départements. Donc ça nous permet de discuter et d'avancer certaines choses. Alors il y a des effets d'annonce qui ont été mis en place au niveau de nos dirigeants qui sont à aujourd'hui des effets d'annonce, parce qu'on est en train de, si on écoute tout ce qu'on nous dit Je veux dire, on a ramassé des millions, voire des milliards d'aides concernant la fermeture ou nos fermetures. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, la seule chose de tangible, palpable, est celle qui est arrivée sur certains commerces, j'entends bien sur certains commerces, et c'est pas la majorité, pour ainsi dire, c'est même la minorité, c'est cette prime de 1 500 euros qui a été mise en place pour la restauration et les petits commerces, pour la perte d'exploitation, hein, c'est la prime de solidarité qu'ils appellent. Donc cette prime de solidarité de 1 500 euros, faut bien savoir qu'elle va sur l'entreprise du dirigeant pour l'aider effectivement dans ces périodes-là. Mais vous savez qu'à 1 500 euros, je sais pas où c'est que ça va, quoi. Lorsque vous avez deux dirigeants qui sont sur une entreprise, lorsqu'une entreprise a ses frais fixes à payer, son loyer, son électricité, son téléphone, toutes les charges inhérentes, effectivement, à l'entreprise. Je ne parle pas du personnel, puisque le personnel, quand même, il y a une bonne chose qui a été faite, c'était la mise en place du chômage partiel et l'exonération de certaines charges à aujourd'hui. Mais cette prime de 1 500 euros, c'est la seule chose à aujourd'hui, pratiquement, que certains commerces sont touchés ou pas. Je vais vous dire, il y a le secteur de l'événementiel, et je me suis bien passé pour en parler, puisque moi, je fais partie du secteur de l'événementiel traiteur, et c'est très difficile. Aujourd'hui, ce sont des gens et une corporation que l'on a complètement oubliés, au même titre que le traiteur pur, au même titre que certaines autres personnes, que ce soit les discothèques, qui commencent à rentrer dans un système où on leur a promis certaines choses, mais encore à aujourd'hui, ils en sont à payer leurs frais fixes et n'avoir perçu aucune aide. Donc ça devient très compliqué pour tout le monde, parce que ces 1 500 euros vont sur l'entreprise et ne vont pas, ce n'est pas le salaire du dirigeant. Aujourd'hui, ce que nous, on demande, effectivement, c'est que on est dans une période que l'on n'a pas choisie, puisqu'on nous interdit de travailler. Donc ce qui nous fait, quelque part, c'est zéro rentrée d'argent. Et à côté, on a ce qu'on veut et ce qu'on demande avant toute chose, avant toutes les aides qui puissent nous arriver, c'est zéro dépense. Zéro rentrée, zéro dépense. Ça, c'est le minimum. Ensuite, va falloir parler effectivement de toutes les aides que l'on puisse avoir à côté, parce qu'aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe pour notre profession, j'entends, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de perdre pied. On est aujourd'hui à faire beaucoup de social et d'analyse de situation où on est en train d'avoir une hécatombe incommensurable au niveau de notre métier, mais c'est surtout au niveau de la santé des dirigeants. Il y a aujourd'hui, certaines personnes ont investi beaucoup de leur temps, beaucoup de leur argent, de leur économie dans des commerces. Et tout ça, ça me vole avec des décisions qui ne sont pas les leurs, et sans avoir de perspective demain à pouvoir se relever. La seule chose qu'on vous demande à aujourd'hui, ou qu'on vous donne à aujourd'hui, c'est le droit de pouvoir vous endetter encore plus. On vous parle de CPGE, ces prêts garantis d'État, qui sont à hauteur de 25% du CA sous certaines conditions, et puis après avec un taux dont on ne connaît pas aujourd'hui vraiment le taux, dont on dit qu'on remboursera plus tard, mais ce n'est qu'encore un prêt, on vous donne la possibilité de vous réendetter encore une fois. Donc ce qu'on demande nous à aujourd'hui, c'est effectivement que les choses soient claires, et de nous laisser le droit de travailler, c'est une chose. Les aides, c'est très bien, si vous pouvez aider, effectivement, nous aider sans que l'on puisse vous les rembourser. Écoutez, c'est très bien. C'est pas ce qu'on vous demande. Nous, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de pouvoir nous laisser travailler, d'être clair aussi dans vos décisions, que l'on puisse anticiper. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune vision et on ne peut pas anticiper. Notre métier, c'est l'anticipation. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est dramatique parce que la situation dans laquelle on est, on va perdre beaucoup, beaucoup de personnes, en cette fin d'année et en début d'année, parce que les effets collatéraux vont être super compliqués. Et aujourd'hui, notre leitmotiv de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie par rapport à nos camarades, c'est de effectivement soigner le moral des troupes, parce que ça va très très mal. Et je vous garantis qu'à aujourd'hui, on est en train de détruire beaucoup d'emplois, certes, mais aussi beaucoup de vies humaines. Et ça, c'est le plus malheureux, je crois. C'est le plus malheureux.
Habituellement, le Canoë Café est ouvert à cette période ou...
Non. Le Canoë Café est un événement que l'on, sur lequel on travaille l'été, en fait. Mmh. Hein. On travaille en principe de fin juin à fin août. Hein. Mmh. C'est après, comme c'est un événement qui est de plein air, il ne travaille uniquement que quand il fait beau, puisqu'après, même le jour où il peut, nous sommes fermés au canon et café parce qu'on n'a aucun moyen de fabriquer. Et puis lorsqu'il ne fait pas vraiment beau, c'est pas l'endroit où vous souhaitez aller passer un moment s'il ne fait pas beau. Quoi. Mmh. Voilà. Donc nous, c'est l'événement, puisque avec mon camarade, nous sommes dans l'événementiel, évidemment. Le canon et café, comme je vous l'ai dit en début, c'est un événement qu'on prend sur 2 mois l'été, avec d'autres événements qui se grèvent à côté. Mais nous, notre activité essentielle, j'ai envie de dire, c'était l'événementiel, location de food truck et de création d'événements. On est à l'arrêt complet depuis le 15 mars, depuis qu'ils nous ont fait ces annonces-là, avec un carnet de commandes qui était assez intéressant. Et là, sur l'hiver qui arrive et le printemps prochain, aucune perspective de se projeter, quoi. C'est catastrophique.
Merci beaucoup Yannick Chopin pour votre témoignage.
Je vous en prie.
Vous me parliez tout à l'heure d'une association auquel vous êtes le cofondateur, c'est ça ?
Non, je suis pas le cofondateur. C'est deux camarades à moi de Lyon qui ont eu cette idée-là, que sont Didier Loubat, qui a côté marché, et Hugo Bonavial, qui est le gérant du golf aussi, qui, lors du premier confinement, ont discuté ensemble en disant nous on est là, on se retrouve là, on est un petit peu au bord du chemin, on sait pas que faire. Il y a certes est-ce que toi t'as reçu ça, est-ce que t'as eu cette information là, est-ce que tu sais que Pierre l'a eu. Donc on se retrouvait après à s'appeler entre autres à 3, 4, 5, 6 comme ça, s'échanger des informations. Comme moi j'étais donc référent sud d'Aveyron, j'arrivais à leur filer quelques infos aussi là-dessus, et avoir par le biais de réseaux internes ou autres des informations. Et on se croisait des infos comme je viens de vous expliquer là. Et puis jusqu'au moment où on a dit ce serait peut-être bien d'essayer de chacun a le numéro de Pierre, de Paul, de Jacques. Donc on a mis une association en place sur Millau, c'est-à-dire on s'est contacté pratiquement la quasi totalité des métiers de bouche, on va dire, sur Millau, restaurant, bar, hôtel, discothèque. Et on a décidé de monter cette association avec un WhatsApp commun, sur lequel on peut échanger, ou si les gens ont besoin de se confier, poser des questions. Et né de là, l'association Orecad, c'est-à-dire Orecad, c'est HO pour hôtel, RE pour restaurant, CA pour café, et D pour discothèque. Donc on a une association dont le président, c'est effectivement les deux personnes dont je vous ai cité tout à l'heure qui étaient à l'initiative, c'est-à-dire Didier Loubat et Hugo Bonavial. Et puis après, nous sommes un conseil d'administration réduit avec restaurateurs, cafetiers et hôteliers. On va jusqu'à la cavalerie, puisque on a intégré, si vous voulez, à cette association nos camarades aussi des villages alentours, dans le sens où plus on est, plus on rigole, on va dire. Mais il est vrai que c'est plus facile d'aller discuter d'une seule voix avec les pouvoirs publics, ou même avec lorsqu'on demande que 30 brebis égarées qui posent des questions et qui sont parfois les mêmes in fine. Donc cette association a le mérite d'exister. On est là, on vit, on essaye, on est l'interlocuteur aussi auprès de la ville de Millau pour des webinaires concernant un petit peu la problématique des commerces locaux. Nous sommes également au niveau de l'office de tourisme, au conseil d'administration, on a été sollicité pour pouvoir rentrer, pour amener un petit peu notre savoir-faire et également pour représenter notre profession. Voilà. Aujourd'hui, on est partie prenante, si vous voulez, du microcosme de Millavoie. Et on essaye toutefois de parler d'une seule voix, de celle des hôtels, des restaurants et des cafetiers mis à voix auprès de l'identité locale.
Mmh. Donc c'est-à-dire de faire remonter des idées.
Complètement. Voilà. Et puis également, je veux dire, nous, la mairie, l'office de tourisme, souvent, ils essayent de, par le biais d'aller attraper et des restaurateurs, des cafetiers pour un tas d'informations. Et donc, en ayant le contact du bureau d'Orecad et nous, par le biais de nos membres, on arrive à collecter l'information plus rapidement et à faire remonter des fois des cas particuliers parce que on a le contact direct d'une personne qui est plus rapide qu'aller passer par la voie courrier ou autre, quoi. Donc oui, on est voilà, on est là pour défendre un petit peu. On n'est pas là pour faire de politique, que les choses soient claires. On est là pour défendre la profession et faire remonter des informations ou demander certaines choses pour notre profession.
Et alors, si pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que il y a possibilité de rentrer dans cette association?
Ah, évidemment. Alors, évidemment, oui, parce que ça a été, si vous voulez, au départ, on a fait ça ensemble. Alors, chacun a appelé un petit peu son réseau et on se connaît plus ou moins tous sur la jeune bio. Mais Aurécade, en fait, va jusqu'à la cavalerie, Saint-Jean, Jacques-de-Sac. Et puis on peut aller même sur quelques bleds aux alentours, quoi. C'est pas péjoratif quand je dis ça, parce que le but c'est ça, c'est d'être associé à une force vive sur le territoire mis à voix. Et la cotisation, et on a mis une cotisation à 20 euros, manière de dire qu'il faut une cotisation. Celle-ci nous permettra à faire éditer certaines choses si l'on veut. Voilà, je veux dire, c'est pas... On n'est pas là pour faire du bénéfice sur quoi que ce soit. Ça nous permet de payer quelques frais administratifs que l'on a à droite et à gauche pour l'association. Mais après, oui, peuvent effectivement rentrer toutes les personnes qui sont de près ou de loin liées au métier de la restauration, du bar, de l'hôtellerie, de la discothèque. Évidemment, évidemment. Et le contact est tout simple. Hein, il suffit de sur l'adresse c'est aurecadmillot@gmail.com.
Voilà, sur l'adresse mail.
Ouais.
Eh bien, merci.
Aucun problème.
Merci Yannick Chopin pour votre témoignage.
Bah, écoutez, merci à vous de nous avoir fait parler un petit peu dans cette période mouvementée.
En tout cas, on vous soutient. Voilà, beaucoup de courage à vous pour les temps à venir.
Ben, c'est très gentil de nous avoir permis aussi l'occasion de pouvoir parler comme ça, parce que c'est vrai que aujourd'hui, nous, on défend notre matériel, en ce qui me concerne, je défends ma profession, évidemment, c'est dans laquelle je travaille, mais on est là aussi pour soutenir toutes les personnes qui, de près ou de loin, hein, aujourd'hui, sont touchées par ce phénomène-là. Et je pense également à tous mes camarades qui sont en milieu de petits commerçants, eux aussi ont de gros problèmes, même si nous, on a fermé 3 mois et que notre perspective, nous, elle n'est pas d'ouvrir rapidement, parce que je pense qu'il faut être réaliste, notre profession, on va être encore à l'agonie, je pense, jusqu'à la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine. Et moi, je pense qu'il y aura une fenêtre un petit peu plus, une perspective, une lueur d'espoir un peu plus importante pour les commerces de proximité d'ici 15 jours. Mais notre profession, je pense qu'elle va être vraiment mise en sommeil jusqu'à la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine. Mmh. Voilà, courage à tout le monde, mais c'est vrai que plus on est, plus on se soutient, il faut être solidaire.
Voilà, rejoignez l'association.
Oui, avec grand plaisir. Merci à vous.
Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. L'interview de Yannick Chopin, co-gérant du Canoë Café situé à Cressel et référent du Sud Aveyron à Lumy. Avant d'accueillir Philippe Flao de la compagnie Création Éphémère, on va se faire une courte pause musicale et on va s'écouter Kenny Arcana avec son titre « Cinquième soleil ».
S'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et ben sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur. Là où meurt le pardon, où même la foi prend peur. Allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide. Ça sponsorise le sang entre char et usine, innocent dans un ciel aux couleurs des usines. Un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus, caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la vie s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts, les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle, toute cette merde est réelle, donc on se battra encore, c'est la malade libra qui nous bouffe les tripes, une bouteille de vodka, quelques grammes de weed, certains ne reviennent pas, le serrage est violent, subutex injecté dans une flaque de sang, des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop, c'est plus à la baraque que les mômes rentrent tôt, ils apprennent la ruse dans un verre de colère, formatage de la rue, formatage scolaire, c'est chacun sa disquette, quand les mondes se rencontrent, c'est le choc des cultures, voire la haine de la honte, les barrières sont là, dans nos têtes bien au chaud, les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau, non rien n'est rose ici, la grisaille demeure, dans les cœurs meurtris, qui a petit feu meurt, ne pleure pas ma sœur, car tu portes le monde, noble est ton cœur, prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre mère est malade, mais terre mère résiste. L'homme s'est construit son monde, apprenti créateur qui a tout déréglé, sanguinaire prédateur. Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion. Maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionnement massif là où les nerfs sont à vivre. Dans la marche et la rage, bastion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience, mon frère, reste près de ton cœur. Méfie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous saute tous aux bras. Humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière s'y trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne, car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. S'essouffle ce temps, une odeur de soufre. La faim se ressent, la bête envoûte la foule. Les symboles s'inversent, se confondent les obsèques. L'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur. Folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur. Ignorance du bonheur, de la magie de la vie. Choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences. Le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie. Les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, mais passe la lumière. Et confiance en la vie, en la force de tes rêves. Pousse un ange à l'épaule, présent si tu le cherches. Quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste, le grand jour se prépare. Ne vois-tu pas les signes, la mort n'existe pas. C'est juste la fin des cycles, cette fin se dessine. L'humain se décime, espoir indigo, les pléiades nous désignent. Lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être. Dépasse Babylone, élucide le mystère. Rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse. Enfant du quinto sol, comprends entre les lignes. Comprends entre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. On n'est pas là par hasard. Les pléiades nous désignent. Comprends entre les lignes. La vie est grande. Ton cœur. Désobéissance. La vérité est en nous. Car la solution est en nous. La solution est en nous. Parce que la vie est en nous.
l'invité de l'actu culturel.
L'actu culturel. Et on passe tout de suite à notre prochain invité avec le témoignage de Philippe Flao, enregistré ce matin pour nous parler de la situation catastrophique de la culture en ce moment en France. Donc c'est une émission un petit peu triste. Hein. Voici tout de suite son interview. Bonjour Philippe Flao, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors vous êtes chef de troupe de la compagnie Création Éphémère, metteur en scène, formateur d'acteurs. On vous avait déjà reçu sur les ondes, notamment pendant le premier confinement, pour évoquer les écoutes éphémères, toujours disponibles sur la chaîne YouTube, Confinés mais rêvés d'ailleurs.
Oui, on peut y aller, oui.
Je vous invite à aller écouter les écoutes, puisque ça redevient d'actualité. Vous avez prévu de poursuivre les écoutes d'ailleurs pendant le second confinement?
Alors, c'est en débat à la compagnie. Voilà, on a envie d'être plus vivant que dans l'écoute, simplement. Voilà, donc on cherche des... C'est très compliqué. Bon, si on a que ça, je vais dire, on va le recommencer, quoi. On est poussé un peu par les élèves. Ouais, les élèves nous téléphonent. Il y a eu Extremado aussi qui a été annulé, là. Donc on reste en contact avec tous ces gens, jeunes, moins jeunes, etc. On les écoute, en tout cas. Mais bon, c'est... Comment expliquer le spectacle vivant, c'est tellement quelque chose où on a envie, en chair et en os, d'être quelque part, qu'on est en train de réfléchir comment on peut faire autrement.
Donc je rappelle que le concept était de donner la parole à tous ceux qui le souhaitaient en publiant un texte, un poème, etc. avec de la musique, donc sur la chaîne YouTube Confinés mais rêvés. Alors aujourd'hui, on vous reçoit évidemment pour parler de ce second confinement et pour évoquer une lettre qui a été écrite donc par la compagnie et qui a été largement diffusée et même envoyée aux différents élus du territoire. Et on va y revenir juste après. Donc en fait, depuis le premier confinement, la saison avait repris à la Fabrique.
Eh oui.
Le lieu d'accueil artistique, justement. Vous aviez de nouvelles pièces programmées, les cours de théâtre avaient repris aussi, et donc vous étiez même adapté aux contraintes sanitaires.
Oui. Bon, d'une façon plus large, j'ai pas envie de parler que de la compagnie, parce qu'on est tous dans le même bateau, dans ce ruissellement un peu nauséabonde du moment. Oui, on avait repris avec beaucoup d'enthousiasme, ça veut dire aussi des équipes qui travaillent avant pour essayer de réfléchir comment reprendre. Ça voulait dire pour nous, par exemple, je pense, en gros, 35-40 représentations d'annulées depuis le 13 mars. Ça voulait dire plein de représentations qui devaient reprendre. Ça veut dire, depuis le 1er septembre, avec Kevin, on a fait le compte, je pense, une quarantaine de... Voilà. Avec la période de Noël qui arrive aussi, où on avait beaucoup de spectacles jeunes publics. Bon, c'est l'effondrement complet. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... comment dire ? Là, j'ai regardé un petit peu les nouvelles ce matin, etc., par rapport à notre Premier ministre d'hier. Il n'y a pas un mot sur la culture, quoi. Je crois qu'il y a dû parler une heure, je ne sais pas, je n'ai pas écouté. Mais on ne parle pas du tout de culture, c'est fini. Alors, dans l'esprit des gens, il faut bien savoir qu'il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites sur l'année blanche pour les intermittents, etc., etc. Bon. Ça nous sauve pas du tout, ça c'est sûr. Ça nous maintient en vie. La seule chose, c'est qu'on oublie de parler en ce moment du fond du problème au niveau de la culture. C'est que nous, par exemple, en tant que comédien, on est au bord de la déprime. On va se remettre, mais parce qu'on ne peut plus jouer. Donc voilà. Et quand on étudie un peu ce phénomène, on se dit pourquoi on peut plus jouer. Bon, c'est simple. Les lieux de représentation sont fermés. Donc effectivement, on ne peut plus s'exprimer là. Donc par rapport à la compagnie, ce qu'on est en train de se dire, c'est allons là où les gens sont. Et les gens sont en ce moment, par exemple, les jeunes sont dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Donc on est en train déjà là de se projeter. Dès début décembre, on devait avoir une petite tournée avec les Justes qui devaient reprendre. On va aller jouer dans les lycées. Avec des proviseurs qui s'ouvrent, hein, parce que des professeurs, des jeunes qui n'attendent que ça. Alors après, il y a des utopies dans lesquelles on se plonge, qui sont revenir à l'époque Jean Villard, c'est-à-dire d'aller dans les entreprises, jouer pourquoi pas. Maintenant, le monde ouvrier n'est plus exactement le même, mais on essaye. Voilà, l'idée, c'est d'aller vers les lieux où existent encore des publics. Qui ne sont pas empêchés. On parle des publics empêchés, c'est marrant. Le mot empêché était réservé à un public vraiment qui ne pouvait pas se déplacer dans les théâtres, etc. etc. Maintenant, tout le public français est empêché. Voilà. Oui, on a la rage, oui, on n'est pas content, oui, on. Voilà, il n'y a aucun cluster déterminé dans une salle de spectacle, dans une salle de représentation. Depuis le début de l'épidémie. Aucun. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers tout ça? Je sais pas. Voilà. C'est un peu... Ouais. Donc, on se pose beaucoup de questions à la compagnie, comme d'habitude, mais on va aussi agir. Donc, on est en train de travailler là où on peut, parce qu'effectivement, là, je vois Kevin qui n'est pas là aujourd'hui, et je le remplace un peu parce qu'il anime une formation professionnelle. C'est un critère où on peut encore travailler. L'équipe est souvent dans les lycées actuellement. Il y a deux écoles miavoises qui ont accepté qu'on aille représenter chez eux pendant la période de Noël. Le lycée aussi, on va jouer les justes. Voilà, on essaye de trouver des solutions. On se sent, comment dire, vraiment, bon, il n'y a pas que nous, les commerçants, tout ça, mais on se sent des oubliés, mais vraiment complets. Mmh. C'est-à-dire que nos politiques, au sens très large, que ce soit ville, département, région, État, il y a eu des grandes annonces pour dire, bon, ben voilà, on va vous aider un peu financièrement pour tenir le coup. Mais le problème de fond, de trouver des solutions pour continuer notre métier, qui est de dire, de diffuser, de raconter, de rire, de pleurer ensemble... On est vraiment seul, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que cette lettre a été publiée avec des retours de sympathisants, c'est sûr, mais aussi des retours pas très bienveillants, je trouve. Voilà.
Donc justement, cette lettre, elle s'intitule « Quelle culture voulons-nous ? » Donc dans cette lettre, vous abordez, vous venez plus ou moins de le dire, hein, mais les différentes mesures qui ont été prises depuis le début, et les différentes incohérences des mesures prises depuis le début de cette crise. Et puis il y a deux mots, il y a beaucoup de phrases qui sont belles dans cette lettre, je trouve, mais il y en a deux mots qui m'ont marqué. C'est parce qu'en 2020, tout ce qui est lié au bonheur, à la réflexion, au partage, à la liberté d'expression n'est pas essentiel. Et ensuite, vous dites une autre phrase juste derrière qui est pour moi très intéressante et forte, parce que bon, c'est quand même marquant. L'histoire se rappelle qu'au milieu du 20e siècle, on brûlait les livres. Elle se rappellera qu'au début du 21e siècle, on interdit de les vendre.
Alors c'est une phrase qui a fait beaucoup polémique, parce qu'il y a beaucoup de réacs qui, d'un seul coup, disent « Ah oui, on est en guerre, etc. » Bon. Oh là 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 là. J'en discutais avec Kevin. Kevin, il me disait « Moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, dans ma scolarité, c'est que justement, ces choses-là de l'histoire, il ne faut pas que ça se reproduise, mais qu'il y a des signes avant-coureurs. » Bon, c'est ce qu'on a voulu dire dans cette lettre. On n'est pas en train de dire qu'on est dans un pays où on va brûler les livres. Mais, si demain on commençait à brûler des livres, est-ce qu'il y aurait autant de gens qui seraient opposants à ce genre de choses? Je ne sais pas. Voilà, je commence à douter dans ces choses. Voilà. Quand on voit les petites librairies à Millau, mais monde d'une pipe, c'est pas là qu'on attrape le virus, quoi. Enfin, là, comme ailleurs, mais moi qui fais en ce moment, bon, il y a eu toute cette montée de lycéens, etc., par rapport à ce qu'on leur dit et ce qu'est la réalité. C'est vrai que là, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à Toulon dans un lycée où il y a 2000 lycéens. Je me suis retrouvé en train de manger... au réfectoire, c'est pas une petite librairie de quartier, quoi. Donc voilà, pourquoi mettre les curseurs là où il faut pas? Moi, je pense que c'est idéologique. Je le pense très, très, très sincèrement, quoi. Très sincèrement. En ce moment, toutes les équipes, toutes les équipes artistiques de spectacles vivants sont dans des théâtres, et je remercie beaucoup les directeurs des théâtres qui nous ouvrent les portes. Nous, j'espère que ça va pas trop mal se passer. On a des résidences bientôt dans le Nord Aveyron, dans le Limousin, etc., pour continuer à bosser nos projets. Mais pendant ce temps-là, on se rencontre pas, quoi. La rencontre ne se fait pas, on est dans des petites salles noires, on bosse ensemble, on croit en notre projet, ça fait du bien, c'est comme une bulle d'air pour nous, mais sûrement pas pour les spectateurs, pour les auditeurs, pour ceux qui ont envie de nous entendre. Alors par rapport à ces phrases, je vois, tout à l'heure j'ai parcouru un peu Millau, là je vois qu'il y a des gens qui écrivent sur les panneaux, c'est magnifique, il y a des phrases qui me font rêver aussi. Écrivez, ça s'appelle expression libre, bon, on en a tous besoin, on voit au niveau des jeunes qu'est-ce qu'ils sont riches en ce moment dans l'écriture, dans les appels qu'ils nous font, dans les mails qu'ils nous envoient, enfin voilà. Moi je crois beaucoup... Je vais être dur, hein, mais je crois beaucoup en la jeunesse. Je crois plus du tout aux personnes de mon âge. Il faut recommencer quelque chose. Là, il est temps.
Et donc, pour terminer avec cette lettre, à la fin, vous annoncez, et je vais encore une fois citer, nous, compagnie Création Éphémère, exigeons la réouverture de l'ensemble des lieux culturels et appelons l'ensemble des élus, ville de Millau, département, conseil, etc., à imaginer des politiques culturelles ambitieuses et émancipatrices, rendre possible la culture pour tous, par tous et avec tous.
Oui, c'est le moment. C'est le moment de se poser ces questions et il n'y a aucune... Enfin, si, des équipes artistiques comme nous, mais il n'y a aucune question qui se pose. C'est-à-dire qu'on attend... Est-ce que j'attends encore quelque chose de nos politiques? J'en sais rien. Et alors, depuis le mois de mars, il n'y a pas un coup de fil. Alors, il y a juste... il faut rendre César à César. Il y a juste Aveyron Culture, donc représentant du conseil départemental, qui nous a téléphoné aussitôt par rapport à cette lettre et qui veut bien effectivement peut-être être dans l'organisation d'une table ronde au niveau de la culture en ce moment, comment revoir tout ça, comment espérer les choses. Moi j'ai été complètement triste, mais vraiment triste de voir que quand la culture a repris dans les villes, où on a eu l'autorisation de continuer d'Europe, il n'y avait absolument rien, mais plus que rien, dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a eu une... Voilà, on se demande, comment dire, il y a eu une bulle d'air, et pas plus que d'habitude, enfin, même moins que d'habitude. Alors qu'il y avait plein d'équipes artistiques qui étaient prêtes à jouer dans la rue, rien, pas de proposition.
De la part des compagnies?
Non, de la part des lieux, de la part des municipalités, de la part... Voilà, il n'y a pas eu de... Voilà, on n'a pas vu, tiens, ben, c'est le moment, les gens, ils en ont besoin. Nous, on est hyper coincés. On fait pas du théâtre de rue, mais on peut, on est comédien, donc on peut aller partout. Mais là, si demain, au marché... je viens de traverser le marché, il y a trois comédiens qui se mettent à faire quelque chose, tout de suite... On n'est pas embarqué quand même, mais presque, non, interdit. Parce que, rassemblement, les gens, 6 personnes, tout ça. Il faut faire beaucoup de prévention, ok, et laisser un petit peu l'initiative aux gens de se réunir à 6 ou pas. Voilà, les gens, je pense, moi, qu'avec leur masque, etc., ils vont pas rester plus de 6. Mais laissons faire tous ces gens, musiciens, comédiens, artistes, peintres, etc., qui ont envie vraiment de partager ce qu'ils font. Arrêtons de les cloner comme des... Enfin, voilà, j'ai la rage. C'est vrai qu'il y a des incohérences qui sont incroyables. Et pour revenir à cette lettre, puisque tu me poses cette question, on a largement invité, les politiques à pouvoir simplement nous réunir, on sait, bon, par visio, par Zoom, ils ont fait un carton là, à la bourse, j'ai vu, c'est génial pour eux, mais bon, essayons de parler en ce moment. Moi je me mets à la place d'un politique qui est en charge de la culture, oui, il est au travail, j'espère, mais il y a un peu de temps quand même pour réunir ses partenaires de son territoire pour, entre mars et aujourd'hui, si on n'avait pas été initiateur de certains projets avec le CIA, entre autres, etc., à une époque dans le premier confinement, il n'y a pas de main tendue. Si on va nous dire, on va essayer de faire quelque chose financièrement, alors qu'en plus, c'est faux, quoi, il n'y a rien. Il n'y a rien au bout du compte, hein, il faut savoir, on monte des dossiers, il n'y a rien qui arrive. Donc, Voilà, nous, on a besoin de se retrouver autour d'une table, de dire, ben voilà, il y a des formes qui peuvent exister, comment faire pour s'entraider, il y a des lieux qui sont ouverts pour répéter, enfin, que les choses ne se fassent pas en catimini, mais que ça soit ouvert, et puis profitons de ce temps pour justement rêver d'une autre culture à la sortie du confinement.
Parce que pour le moment, à part Aveyron Culture, vous n'avez reçu aucune réponse.
Aucune réponse, même pas un coup de fil, pas un mail, rien. Rien. Si, je parle des politiques. Hein. Après, si, des sympathisants, des amis, tout ça, oui, plein. Mais non.
Donc, ça fait combien de temps aujourd'hui, maintenant, que la lettre elle a été envoyée?
Je pense 2 semaines, non? Je pense, au moins, ouais.
Et comment vous réagissez quand vous entendez, par exemple, qu'en Belgique, ils ont fait le choix de maintenir les librairies et les bibliothèques ouvertes pendant ce second confinement, justement?
Comment je réagis?
Oui, est-ce que ça vous donne de l'espoir?
Bah, j'aime beaucoup la Belgique, voilà pour comment je réagis. J'adore les gens en Belgique, j'adore. En plus, c'est un statut, en tout cas, je parle du spectacle vivant, c'est le statut qui est le plus proche de nous en Belgique, hein, en Europe. On y tient à ce statut. Eh bien oui, quelle cohérence de lire ça, j'ai envie de dire. Bien sûr, quelle cohérence. Il y a une chose aussi qui en ce moment dans ma réflexion, c'est de dire que, bon, en tout cas la compagnie Création Éphémère, on est sur le terrain tout le temps. Depuis que la compagnie existe, c'est une ligne importante. On ne fait pas que jouer, puis partir, aller dans nos hôtels, et puis bon, on veut rencontrer le public, on veut qu'il y ait une dimension presque à la Jean Villard, de brasser tous les publics, de la maternelle à la maison de retraite, j'ai envie de dire, du public rural au public citadin, rentrer dans les écoles, enfin voilà, il y a tout ce projet de rencontre qu'on est bien connu pour ça. On s'est équipé de petits gradins en ce moment pour rétrécir un peu nos formes un peu gigantesques sur des grandes scènes, pour être se balader dans les salles des fêtes, etc. Bon, c'est tout notre boulot. Je sais pas après, mais je pense quand même, avec les retours qu'on a quelquefois 2 ans, 3 ans, 4 ans après, qu'un simple passage a permis à des gens d'aller autre part que dans leur fauteuil le soir et de télécharger, d'être devant le petit écran. Il y a une symbolique qu'on fait chaque année, c'est un côté artistique, comique, quoi. C'est à l'inauguration de la fabrique, on fait une grande cérémonie, comme avant, on égorgeait un mouton avant de jouer, hein, dans le haut du temps antique. Nous, on fracasse une télévision, voilà. C'est à ce moment, on se dit, voilà. Mais tous ces gens qu'on a un petit peu réussi à convaincre de pouvoir ouvrir un livre, de pouvoir se déplacer un soir, aller voir une représentation, discuter avec des comédiens, avec des danseurs et tout, bah depuis le mois de mars, Netflix, il doit se remplir les poches à fond. Enfin voilà, ils sont tous sur cette possibilité-là d'aller télécharger, de faire venir des choses sur d'Amazon, etc. Mais c'est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qu'on veut, quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Alors que ces petites librairies se battent justement pour qu'il y ait un commerce local et aussi pour qu'il y ait possibilité de s'emparer d'un vrai livre. Tout l'effort qu'on a eu pendant des années, waouh! Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bon, on a encore du courage et tout, mais voilà. J'ai pas répondu à ta question aussi, parce que je m'en vais toujours ailleurs.
On a parlé d'autre chose. Non, moi, à la base, c'est vrai que j'avais parlé de la Belgique et que je trouvais je trouvais que c'était quand même un message d'espoir de se dire que c'était un pays qui était proche d'une autre et se dire que c'est possible, quoi.
Mais de par ma colère, j'ai plein de messages d'espoir. Sinon, je serais même pas venu te voir pour parler là. Non, mais voilà, la colère, c'est aussi le cri, c'est aussi, je pense, hyper important, hyper libérateur. Je pense que voilà. Moi, j'ai un petit coin, là, sur le Larzac, quand je descends vers Pierrefiche, où il y a un super écho dans la montagne, et quelquefois, je crie, et ça fait du bien. Mais c'est un message d'espoir.
Merci, Philippe Flahaut.
Bah, avec plaisir.
C'était l'interview de Philippe Flahaut de la compagnie Création Éphémère, avec une profession vraiment mise à mal avec la crise. Donc, avant de conclure cette émission, on va s'écouter une reprise de la chanson « Les amoureux des bancs publics » de Georges Brassens. Il s'agit d'une parodie réalisée par l'émission suisse 120 minutes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi.
Les gens regardent de travers tout ce qui tousse par terre et sortent des mouchoirs. Le monde est en train de paranoïer gentiment. Et c'est par sécurité que Berne a décidé d'en faire toute une histoire, en interdisant tous les trop grands rassemblements. On a pu faire notre concert mais sans public, sans public, sans public, en tentant de tenir la boutique avec nos chansonnettes. On a pu faire notre concert mais sans public, sans public, sans public, en disant des ça va pathétiques dans une salle vide sans acoustique. Quand la nouvelle est tombée, j'ai cru que j'allais te chaler comme devant top modèle. On était en plein train de décorer le stand. Et là, y'a pas tout qui me dit, y'a percé au TJ, check-moi voir ton attel. Il paraît qu'on va sûrement devoir tout annuler.
Ouais, fait chier, hein.
On a pu faire la fête, oui, mais sans public. Sans public, sans public. En buvant les 800 litres de binge avec FIFO et Mimette. On a pu faire la fête, oui, mais sans public. Sans public, sans public. Et aussi sans coma éthylique. C'est quand même moins sympathique. On est habile de nos mains, à l'aise sur nos patins, parfois de petites blessures nous rappelle qu'on fait quand même un drôle de métier. On se voit déjà doucement au sommet du classement, pour ça faut qu'on assure. Mais depuis deux semaines, eh bien, on ne fait que déprimer. On a pu jouer notre match, mais sans public, sans public, sans public, sans les tambours, les cris hystériques de nos supporters. On a pu jouer notre match, mais sans public, sans public, sans public. Mais pour ne pas perdre trop de fric, on préfère le chômage technique.
Quand mes fidèles paroissiens, certains dimanche matin viennent me visiter, je dois aussi bien sûr prendre quelques précautions. Ne pas se serrer la main et partager le vin dans de petits gobelets. Même si c'est vrai que je suis bien obligé d'avouer, de toute façon, à l'église, y'a de moins en moins de public. Moins de public, moins de public. À part M'sieur Gaulet et la Monique, et puis aux obsèques.
De toute façon, à l'église, y'a de moins en moins de public. Moins de public, moins de public.
Mais ça pourrait changer très très vite si on ne trouve pas de vaccin.
La parodie de la chanson « Les amoureux des bancs publics » de Georges Brassens, réalisée par l'émission suisse 120 minutes. Et c'est sur ces dernières notes qu'on va conclure cette émission. Merci à nos invités d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Yannick Chopin, co-gérant du Canoë Café, et Philippe Flao, chef de troupe de la compagnie Création Éphémère. Donc tous les deux sont dans des corps de métiers particulièrement impactés par la situation actuelle. Donc on leur envoie tout notre soutien. Vous pourrez réécouter cette émission ce soir à 19h en rediffusion sur les ondes ou retrouver le podcast sur le site radiolarzac.org. La semaine prochaine, ce sera l'émission Conflit de canards qui vous sera présentée. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux invités dans la prochaine Actu sur un plateau. À très bientôt sur Radio Larzac.
L'Actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours.